Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI.
C'est la guerre pour la 12e place, pas de match facile, et c'est comme ça, il va continuer dès les mois de mai.
La bataille pour devenir le flipper du Paris Saint-Germain fait rage. Marseille et Monaco ont manqué hier soir la deuxième marche en faisant match nul au Vélodrome. Une belle rencontre mais qui a souligné les limites des uns et les qualités retrouvées des autres. Aucune des deux équipes du Sud n'a donc profité de la défaite de l'OL. Est-ce un faux pas des Lyonnais, victimes des Girondins? Bordeaux a bien accueilli en tout cas son nouvel entraîneur Gustavo Poyet. Cavani plus fort que Zlatan, l'Uruguayen est enfin devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain devant son public et félicité par Neymar, son camarade de jeu qui a nié une nouvelle fois avoir des envies d'ailleurs, par exemple du Real Madrid. Maroc, Libye et Soudan, Nigeria, voici les quatre équipes qui s'affronteront en demi-finale du CHAN 2018. Les Lions de l'Atlas, favoris de la compétition qu'ils accueillent. Ils sont donc toujours là. Ils comptent d'ailleurs dans leur rang le meilleur buteur du CHAN, Ayoub El Kaabi. Une compétition que vous avez suivie de près, Franck Simon.
Oui, jusqu'à hier. Bonjour à tous. Hein, bonjour,
vous étiez au Maroc, vous,
hein. Oui, absolument.
Avec Christophe Jousset, avec Farid Achas.
Bien sûr.
Bon, et bien tous nos autres camarades, collègues africains. Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous arrivez de moins loin?
Oui, de pas très très loin, de ma ville du Sud.
De Marseille, bien sûr. Karine, bonjour.
Salut Annie, salut à tous. Oui, malheureusement, j'ai suivi le match devant ma télé. J'aurais été mieux au Vélodrome, mais bon.
Ouais, bon, il faisait plus chaud.
Elle tourne un film en ce moment. Elle est magnifique. Incroyable.
Bonjour Eric Marmorut.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Radio Foot, c'est parti. La deuxième place de la Ligue 1, un feuilleton renouvelé à chaque journée du championnat de France hier soir dans la belle ambiance du Vélodrome, n'est-ce pas?
Oui, c'était très très beau. Très très beau. Pas rempli, mais très beau.
Oui,
avec un beau tifo pour Luis Gustavo.
Exactement, il les mérite.
Virage Sud.
Les Marseillais savent faire ça, les tifos comme ça, géants.
Est-ce que tu as déjà eu droit à un tifo, toi?
Oui, bah, Karine, enfin.
Bon, faudra nous montrer la photo, Habib. En tout cas, l'OM n'a pu remporter son match face à Monaco. Score final 2-2, Marseillais et Monégasque dos à dos. Et pour les joueurs phocéens, l'objectif reste donc le même, confirmé Florian Thauvin, l'un des meilleurs sur la pelouse.
Faut pas que l'équipe ne se mette de pression, mais... Personnellement, j'ai envie aussi de viser cette deuxième place et de viser la Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, parler c'est bien, mais il faut assumer sur le terrain et les victoires, faudra aller chercher. Ce sera jamais simple. On l'a encore vu aujourd'hui, donc faut pas s'enflammer.
Faut pas s'enflammer, mais surtout, eh bien, une constatation, Habib, les Marseillais ont buté sur les Monégasques. Ils n'ont encore cette saison pas battu ce qu'on dit être les grosses équipes, c'est-à-dire les équipes qui sont classées devant eux. Ils avaient fait match nul déjà contre les Parisiens et c'était plus qu'honorable.
Et perdu à Lyon aussi.
Ouais. Et perdu à Lyon ensuite. Ils ont perdu maintes fois contre Monaco. Là, ils n'ont pas réussi à les battre. Pourquoi, selon vous?
Parce que je pense que déjà ils reviennent de très très loin, faut pas l'oublier, et que la performance de l'OM aujourd'hui n'est pas du tout la même de ce qu'on avait pu voir à Monaco ou même contre Rennes à domicile lorsqu'ils avaient un petit peu sombré, donc il y a eu une vraie progression. Ensuite sur les grands matchs, ils montrent aussi leurs limites, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui ce que fait l'OM c'est très très bien, mais ils sont aussi au taquet, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde Lyon et Monaco et l'Olympique de Marseille, pour moi ces trois équipes se valent. Mais il leur manque peut-être un joueur supplémentaire de talent pour faire la différence dans ces grandes affiches.
Ils sont limités, donc.
C'est pas qu'ils sont limités, c'est que, pour moi, il n'y a pas de grosse différence entre Marseille et Monaco, et on se rend compte que, par exemple, quand ils jouent Paris Saint-Germain, ils ont été à fond, mais à fond, pendant 90 minutes, et on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à gagner. Contre Lyon, ils font un super match, et ils ne gagnent pas ce match. Et hier, contre Monaco, ils ont encore plus d'opportunités que les Monégasques et ils ne gagnent pas. En football, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que il peut y avoir sur un match des péripéties. Lorsque ça se multiplie sur les grandes affiches, ça prouve que vous avez une certaine limite sur le plan offensif. On l'a vu, il n'y a que Valère Germain qui a été capable de marquer. Et je trouve qu'il y a seulement Florian Thauvin qui, à lui tout seul, peut renverser une rencontre. S'il y avait un deuxième Florian Thauvin, il serait moins prévisible, il y aurait plus de possibilités pour les Marseillais, et peut-être que les Marseillais seraient beaucoup plus forts. Mais ce qu'ils font déjà aujourd'hui avec l'effectif qu'ils ont, et d'où ils sont partis, c'est extraordinaire.
Karine.
Oui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enseignements finalement sur le match d'hier. Par exemple, lorsque Marseille concède l'ouverture du score très vite, ce qui a été le cas plusieurs fois dans l'histoire de l'OM récente, et notamment au stade Louis II lors du match aller, il y a Maxime Lopez qui a interviewé sur Canal et qui dit « Heureusement, on a vite égalisé, on a eu peur de revivre le scénario terrible du match aller où il s'était pris 6-1, sans oublier l'an dernier où il s'était fait fesser deux fois. » Donc déjà, il y a eu cette capacité à réagir. Et Marseille, depuis quelques mois, a grandi sur cet aspect-là. Avant, lorsqu'ils prenaient un but, ils sombraient. Maintenant, à chaque fois, ils reviennent au score, ils font match nul ou ils arrivent à gagner. Après, il y a des limites, et les limites, on les a encore vues. C'est que Dimitri Payet, depuis qu'il est revenu à l'OM, c'est un échec pour un joueur qui devait être le leader technique de l'OM et qui a coûté une fortune. Hier, il était extrêmement décevant, que ça soit en soutien de Germain ou sur un côté. C'est très, très peu et trop peu par rapport à ce qu'on nous avait vendu lorsqu'il est revenu. Et après, je suis d'accord aussi avec Abby, Marseille a des limites parce que dans l'expression collective, offensivement, c'est moyen, c'est brouillon. Quand Monaco et Lyon est à son top, ils arrivent à avoir des très belles séquences. Marseille, c'est toujours un peu plus poussif. Et hier soir, au final, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ont eu les occasions, mais ils les concrétisent pas. Il faut être réaliste et Marseille manque de réalisme parfois.
Et ils perdent deux points. Franck.
Moi, j'ai envie d'être positif avec cette équipe pour une fois. Allons-y. Non, je suis d'accord avec l'analyse de mes collègues. En même temps, je trouve que voilà, ils savent aussi se transcender. Parfois, tu sais bien, Habib, il y a des équipes qui ont besoin de, parce qu'elles se savent limiter, effectivement, en talent, on va dire, ou en technique. Là, pour le coup, c'est bien. C'est une équipe qui se transcende. Je crois que ça fait partie de l'ADN de l'OM. Quand tu prends ce maillot, que tu l'endosses, tu sais que tu vas devoir aussi encore plus mouiller le maillot parce que t'as un public, même s'il était limité hier. Mais moi, j'aime bien voir cette équipe comme ça.
Non, mais voilà. elle est plaisante parce que rappelez-vous de ce qu'on a pu voir de l'Olympique de Marseille.
Aussi.
Non, si, je pense qu'ils ont quand même des atouts sur le banc. Quand on voit Enji qui rentre à la place, par exemple, de Payet. Enji est un joueur qui a marqué. Il a été écarté par Rudy Garcia pour des raisons un peu extra-sportives. Mais même si c'est pas un génie, ça reste un joueur intéressant pour l'Olympique de Marseille. Après, ce qu'on doit noter, c'est que cette équipe, elle a trouvé un équilibre, elle a trouvé une sérénité. Moi, je me rappelle qu'il y a, 5-6 mois, certaines personnes disaient que Rami n'avait pas le niveau pour être à l'OM, que
hier il fait une action superbe,
que plein de joueurs n'avaient pas le niveau pour être à l'OM, et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec de la sérénité, avec un équilibre, ces joueurs-là restent performants, même si ça a été un petit peu plus difficile pour Rami hier dans ce match. Moi, je continue de penser que cette équipe a les atouts pour finir deuxième. On l'a dit. Ils ont pour moi un contexte favorable. D'ailleurs, je parlais hier avec un adjoint de Jardim qui disait que c'était pour lui plus facile pour l'Olympique de Marseille dans le contexte dans lequel ils sont, avec un public, avec, on le sait, l'engouement des Marseillais. Lorsqu'ils sont à Monaco, c'est un petit peu plus calme pour les Monégasques. Maintenant, l'expérience est aussi du côté de Monaco. Mais je trouve ces Marseillais plaisants depuis quelques mois.
Et ils ont secoué Monaco?
Ils les ont secoués, mais comme dit Karine, lorsqu'on secoue une telle équipe, par exemple, la performance de Marseille contre Paris, c'est un match qu'ils doivent gagner parce qu'on n'est pas face à un grand Paris. La performance hier de l'OM,
en plus, ils sont
dans sa globalité, doit permettre à l'OM de prendre 3 points. Et à chaque fois, ils ne les prennent pas.
Il
est là le problème. Lorsqu'on voit la première mi-temps de l'OM face à Lyon, c'est eux qui ont dominé les débats.
Il ne manque pas grand-chose quand même.
Oui, il manque pas grand-chose, mais il manque toujours un petit peu quelque chose.
Hier, quand tu rentres à la mi-temps à un but partout, si t'es Marseillais, t'es frustré parce que t'as eu le plus d'occasions. Et sur la deuxième mi-temps, c'est pareil parce que Marseille pousse énormément, mais après, il y a toujours ce manque de justesse.
De précision.
Et de précision. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même grandi. Rudy Garcia, l'an dernier, il avait quasiment raté tous ses grands rendez-vous, hormis le match nul au Parc, mais t'avais pas besoin de Rudy Garcia, c'était le premier match, c'était le Parc des Princes, c'était du bétonnage. Là, t'as pas besoin de te transcender pour aller au Parc des Princes.
Il y a du jeu, il y a quand même du jeu.
Voilà, là, l'OM a grandi quand même par rapport à l'an dernier. Mais après, c'est pas sûr que ça soit suffisant pour avoir cette deuxième place, parce que Monaco, on les dit toujours moribond, mais ils sont toujours là au final. Et quand Fabinho décide de faire un grand match, on retrouve le Fabinho de l'an passé, ça change tout aussi à Monaco.
Eric,
il y a cette statistique justement qui ressort à propos de Rudy Garcia, à propos de Serge Koumoun vis-à-vis des grosses équipes. Depuis son retour à l'OM, il en est à 6 défaites, 3 nuls, aucune victoire. Est-ce qu'il y a quand même un effet négatif, Rudy Garcia, dans le fait que l'OM plafonne un petit peu, bloque?
C'est ce qui lui avait été reproché quand il était en Italie.
On lui reproche à Rudy Garcia depuis de toute façon qu'il est entraîneur de ne pas avoir la capacité tactique à transcender, à métamorphoser une équipe pour aller chercher un résultat. Moi, je pars du principe que j'ai été le premier à le critiquer il y a 4-5 mois où j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas sa patte sur cette équipe, qu'il n'y avait pas de projet de jeu, pas d'identité. Et aujourd'hui, avec l'équilibre qu'il a retrouvé, on retrouve quand même une équipe qui est pour moi performante. On ne peut pas enchaîner comme ça une aussi longue série avec un entraîneur qui n'a pas d'impact sur son équipe. Il a forcément un impact. Maintenant, je ramène la non-capacité qu'a l'OM à gagner ses grands matchs aux limites affichées aussi par cette équipe. Il faut jamais se cacher que cet effectif, par exemple, si demain il venait à se qualifier pour une Ligue des Champions, il faudrait qu'il soit modifié dans sa grande globalité. Qui a le niveau aujourd'hui requis pour la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille? Je vous le donne, Mandanda et Florian Thauvin. Pour moi, même Morgan Sanson...
Même pas Valère.
Et Gustavo, pardon, oui. Lui j'ai oublié, mais lui je le mets hors norme, parce que pour moi, Gustavo, c'est pourrait même jouer au Paris Saint-Germain aujourd'hui, oui. Si on regarde les performances de Gustavo. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez que 3 ou 4 joueurs qui sont capables de s'élever au niveau de la Ligue des Champions, ça prouve que les limites sont là, et ces limites, elles sont affichées dans les grandes rencontres.
Franck, est-ce que ça viendrait de l'entraîneur?
Non, je suis d'accord avec Habib. Je pense que l'effectif aussi est, voilà, il a cette taille, il a cette capacité. Quand ils se transcendent, ils peuvent aller chercher un résultat, mais il est limité. Il faudra forcément recruter. Mais ne pas se tromper, parce qu'il y a aussi un gars qui est sur le banc actuellement. On se demande encore ce qu'il est venu faire, hein, le grec.
Oui, mais ça c'est acté. C'est difficile pour lui.
Comment on peut dépenser autant d'argent?
C'est pas la seule erreur que l'OM
entre autres,
et les autres clubs aussi. Non, ce qui est sûr, c'est que déjà Rudy Garcia, lors des grands rendez-vous, il faisait toujours des coups tactiques qui finalement étaient des fours. Et lors du match aller contre le PSG, il avait trouvé un système avec ce 4-2-3-1 qui avait bien fonctionné. Et depuis, il a pas bougé. Et heureusement, il a sa base, il a ses hommes de base, il sait qui il met ligne par ligne. Et ça aussi, c'est une assurance que l'OM n'avait pas avant. Au match aller, il 600, il fait une défense à 5 et au bout de 2 minutes de jeu, il a déjà encaissé un but et ça avait été un four pendant tout le match. Là, au moins, il est sûr et il ne change pas de tactique en fonction de l'adversaire, donc il a déjà cette assurance-là. Et puis, il y a Valère Germain qui redevient un attaquant en confiance.
Et c'est lui, finalement, qui devient titulaire dans cette équipe.
Ça fait plusieurs matchs et là, il le confirme, bien évidemment. Exactement. Il a pris un ascendant énorme.
C'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est un titulaire par défaut. C'est un titulaire par défaut parce que Kostas Mitroglou
n'a pas rempli choisi même au début.
Au départ, Valère Germain n'a pas été recruté pour jouer tout seul devant. Aujourd'hui, il marque des buts parce que c'est un très bon joueur, il est intelligent. Maintenant, Valère Germain, on peut tous dire aujourd'hui, on peut le signer, c'est un joueur qui va mettre à la fin de saison 12 ou 15 buts. Avec 12 ou 15 buts, vous n'êtes pas forcément en Ligue des Champions. On avait un Gomis qui en a mis 21 et l'OM n'a pas été en Ligue des Champions. Donc, c'est le problème, il est là. La limite, elle est là. Sauf si Thauvin venait à marquer, lui, une vingtaine de buts dans la saison. Elle est là aussi, la statistique.
Aussi. Là, il en est à 5 buts sur ses 7 derniers matchs et 12 buts, toutes compétitions confondues.
Ouais, mais
il est parti de loin, parce qu'il a pas joué.
Oui, exactement. Par exemple, hier, il y a évidemment son but, mais le nombre de fois où il a fait des remises finalement pour personne, c'est frustrant parce que c'est un joueur qui aime beaucoup combiner avec un autre, qui dévie énormément de la tête, qui sait faire jouer les autres. Et finalement, hier, très souvent, il était seul dans la surface de réparation parce qu'il y avait pas d'attaquant à côté de lui, où il n'y avait pas non plus d'autres joueurs qui se projetaient assez vite dans la surface.
Surtout, Karine, quand tu regardes les occasions de l'OM hier, vous les prenez, ces occasions. À Monaco, ils les mettent au fond. À Lyon, Fekir, Mariano ou autres, ils les mettent au fond. À Paris, bon là on est hors norme, ils les mettent également au fond. L'occasion de Payet, les deux occasions de Sanson, l'occasion d'Ocampos sur le centre en retrait où il rate un petit peu son plat du pied.
Germain,
il y a beaucoup d'occasions. Il y a Germain qui rate le cadre.
C'est pas la faute de l'entraîneur, on est d'accord.
Non, on est d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les limites, elles sont là. C'est-à-dire qu'un joueur comme Germain, de toute façon, on le sait, ne marquera pas 30 buts dans une saison.
Mais qui il faut recruter alors en
C'est aussi ça le travail des dirigeants, d'aller chercher un joueur qui est capable, parce que de toute façon pour jouer les grandes compétitions,
de toute façon
et pour être devant il vous faut ça.
Avant la fin du mercato hivernal, je dis là les changements ne seront
pas.
Là si c'est pour faire un deuxième four et prendre n'importe qui le dernier jour du mercato comme Mitroglou, il faut mieux rester sur la base qu'on a.
Préfère être prudent. Monaco resté sur plusieurs résultats peu convaincants parce qu'ils avaient été battus par Lyon en Coupe de France chez eux. Après des 4 derniers matchs avant celui-là, il y avait 2 nuls et seulement 2 victoires. Est-ce qu'on voit tout à l'heure vous parliez de Fabinho, est-ce qu'on voit le retour des hommes qui était fort l'année dernière, parce que Sidibé aussi a été pas mal blessé, il n'était pas là, et on avait l'impression, Lemar est toujours blessé, mais on a l'impression que, en plus du dépouillement général pratiquement du groupe, ceux qui étaient forts l'année dernière n'étaient plus au rendez-vous, est-ce qu'ils reviennent ?
C'est très irrégulier, parce que moi j'étais mercredi pour le match de Coupe de France où Monaco recevait Lyon, il y avait une équipe remaniée, mais Fabinho faisait partie du milieu de terrain, et Fabinho, mercredi, c'était un fantôme. Il n'était pas concerné par le match dans
et
sa globalité.
Falcao l'est aussi de temps à autre.
Et voilà. Et Fabinho hier, il avait endossé son costume du grand milieu de terrain qu'il est comme l'an dernier, et ça fait toute la différence. Donc ça dépend. Le problème à Monaco, c'est qu'il y a vraiment des irrégularités qui sont très importantes. Si t'as un Fabinho comme l'an dernier ou un Fabinho qui est un fantôme, ça te change tout au milieu de terrain, au niveau de la récupération, au niveau des percées offensives, etc. Falcao, ça fait plusieurs matchs qu'il est transparent, mais contre Nice, il touche un ballon, il la met.
Mmh. Aucun des joueurs de Monaco n'est au niveau de celui de l'année dernière. De toute façon, lorsque vous prenez Subasic, vous prenez Glick, vous prenez Jemerson, vous prenez Fabinho, vous prenez Falcao, ils sont pas au niveau qu'ils avaient l'année dernière. Donc ça prouve que Monaco a perdu en qualité. Les complémentarités aussi, on l'a dit, les binômes sur les côtés fonctionnaient énormément. Aujourd'hui, on a vu Almami Touré avec Ghezal, ça n'a pas fonctionné. Sidibé a été très très bon sur le côté gauche. Mais c'est insuffisant pour voir une équipe de Monaco capable de rester au contact du PSG, capable de même survoler un match comme celui d'hier, parce qu'ils sont quand même sous pression hier.
Ni survoler cette espèce de mini-championnat à 3 pour la deuxième place.
Ouais, mais la victoire rappelle la victoire. Et c'est ce qui se passait la saison dernière. Ouais. Et on sentait aussi une joie de vivre, d'évoluer
une
ensemble.
Une énergie.
Cette énergie, elle a été perdue parce qu'ils sont quand même...
C'était toute autre équipe l'année dernière.
Parce qu'ils sont dépouillés aussi.
Exactement.
À un moment donné, t'as plus le même groupe. Je pense que ça en a affecté un certain nombre. Il y en a peut-être qui ont eu d'autres velléités de départ en voyant que finalement tout le monde prenait d'autres directions.
Fabinho, on a parlé hier. Hein.
Voilà. C'est peut-être le bon moment pour eux de se réveiller. Ils n'ont pas retrouvé le niveau de la saison dernière, mais il y a forcément des facteurs objectifs quoi, pour l'expliquer.
Habib, le Monégasque qui a ouvert le score finalement de ce match, c'est un jeune Sénégalais qui est un peu critiqué parce que ses prestations sont
c'est
pas toujours...
C'est la meilleure recrue de Monaco. Voilà. En tout cas, de toutes les recrues de Monaco, c'est celui qui, pour moi, fait le
son
meilleur...
Son nom, c'est Keita Baldé, voilà, disons-le, Sénégalais international.
C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il a été un petit peu baladé par Jardim. On l'a mis une fois à droite, après on l'a mis en soutien
d'attaquant.
Il aime
bien Jardim faire ça.
Ouais, exactement, après il l'a mis seul en pointe lorsque Falcao était blessé. Et là, il le met à gauche et je pense que c'est son meilleur poste.
C'était déjà sélection,
en sélection avec Alou Cissé. Je l'ai vu à la Lazio, il était aussi côté gauche. Après, c'est vrai qu'il avait brillé en soutien de l'attaquant. C'est un joueur qui a un potentiel athlétique de qualité, très puissant. Il peut éliminer. Hier, on voit que son but est un très très beau but puisqu'il élimine et il a la lucidité derrière de marquer. Je crois que pour moi, il réalise un bon championnat pour une première saison en France. Il ne faut pas oublier qu'il a été sollicité par Naples là pendant le mercato et Monaco ne veut pas le vendre parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Moi, je trouve que c'est un très bon recrutement de la part des Monégasques avec Keita Baldé.
6 buts, 4 passes décisives en 21 matchs. Pas mal.
Franck, c'était ce que redoutait le Sénégal, qu'il ne soit finalement que trop remplaçant, et alors que c'est un moment où on compte sur lui en vue de la Coupe du Monde.
Effectivement, puis il y avait tellement d'attentes après sa saison, sa super saison avec la Lazio. Il fait quoi, 20 buts
un petit peu moins,
19 buts. Ouais. Il est juste devant Mohamed Salah chez les Africains en Serie A la saison dernière. Et en arrivant, effectivement, on se posait la question où est-ce qu'il va être positionné, tout ça. Il arrivait dans un groupe qui était auréolé du titre, de son parcours en Champions League. C'est pas forcément évident, même s'il n'y a pas bien loin à aller de l'Italie à Monaco, on le sait bien. Mais aujourd'hui,
il était sollicité par la Juve, il est parti à Monaco et là il est sollicité
par Naples. C'est un choix fort quand même. C'est un choix fort à un moment donné.
Voilà. Bon joueur.
Ouais, puis avec la sélection, on attend aussi beaucoup de lui. C'est le moment de se mettre en valeur. Il y a de donner des signes forts et il y en a d'autres dans l'équipe du Sénégal actuellement qui essayent de se mettre en valeur.
De se placer.
D'ailleurs, il y a Diafra Sakho qui vient de signer à Rennes aujourd'hui.
Qui avait failli faire déjà en début de saison et là c'est fait.
Il avait fait les beaux jours de Metz à l'époque.
Ah oui.
Une dernière chose pour terminer cette partie sur le but de Monaco qui a été annulé. Polémique ou pas, erreur d'arbitrage ou pas, Habib?
C'est difficile, c'est encore une fois une interprétation. Le problème, c'est que même l'assistant vidéo ne pourra pas régler ce type de problème parce que on se dit que si la loi est respectée, c'est-à-dire le hors-jeu de position, il est acquis pour Almami Touré, il ne l'est pas pour Jemerson puisqu'il arrive en second rideau, mais on a quand même Almami Touré qui s'élève devant Jemerson, il n'est qu'à 1 mètre de Jemerson. Donc si l'assistant, lui, estime qu'Almami Touré a induit en erreur éventuellement Mandanda, on peut considérer qu'il soit hors jeu. Après, lorsqu'on voit ce but, de toute façon, Mandanda n'aurait pas pu sauver ce ballon. Donc moi, je pars du principe qu'il faut donner.
Ça reste souvent l'interprétation.
Exactement. Il faut donner l'avantage à l'attaque. Et autant à Nantes face au Paris Saint-Germain, il aurait dû être validé. Et je pense que ce but d'Emerson aurait dû être validé également hier.
Alors vous auriez laissé gagner les Monégasques.
Non, mais je pars du principe qu'il faut respecter cette loi. Et Emerson n'était pas hors jeu. Il a marqué ce but. Et pour moi, Almami Touré n'a pas fait action de jeu pour déranger Mandanda dans son placement.
Et Jardim a été classe parce qu'il n'a pas fait de polémique.
Exactement, mais il en fait rarement. C'est la fin de la première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause pour continuer à parler de Ligue 1.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
La deuxième partie de Radio Foot International sur RFI avec Habib Bey, Karine Galli, avec Franck Simon et Eric Mamrut. Continuons sur ce championnat de France avec cette bataille donc pour la deuxième place avec les Gaunes qui restent deuxième au classement. Alors ex aequo deux points mais deuxième puisqu'ils ont un avantage au goal average, c'est ça hein Eric?
Oui. Plus 27 pour Lyon, plus 23 pour Marseille.
Eh oui. Alors les Gaunes, en tout cas, si ce sont eux les dauphins de cette 23e journée, ils ont eux aussi laissé passer une chance de creuser l'écart et d'être seuls deuxième. Après deux matchs importants où ils avaient remporté des victoires très symboliques, hein, on se souvient face au PSG. Alors eux, les gros, ils arrivent à les battre. Le PSG dimanche dernier, puis Monaco en Coupe de France. Eh bien, les Lyonnais sont allés à Bordeaux et là, ils ont perdu dans une rencontre où ils ont été pratiquement tout le temps mené, défaite 3-1 et un entraîneur, Bruno Genesio, sévère sur la prestation de son équipe.
Ce que j'ai vu, c'est une équipe de Bordeaux agressive, au bon sens du terme, dans les duels, et une équipe de Lyon, inversement, beaucoup trop laxiste. Mentalement, on a été dominé par cette équipe, comme nous, on avait pu dominer Paris, par exemple, au niveau de l'agressivité, au niveau de l'intensité. On s'est pas créé d'occasion, on n'a pratiquement jamais eu la possibilité de revenir dans ce match, si ce n'est lorsqu'on a marqué le premier but en fin de première mi-temps, on s'est dit peut-être que là il y avait la possibilité, mais on n'a jamais su avoir l'emprise sur le match. On s'est pas créé suffisamment d'occasions de but, on n'a pas fait suffisamment défendre cette équipe en courant vers son but, pas assez de mouvement pour le porteur du ballon. Donc oui, c'est un de nos plus mauvais matchs, je pense, de la saison.
Vrai coup d'arrêt pour Lyon, invaincu avant ce match depuis 7 rencontres. Lyon restait sur 6 victoires et un nul. Et plus fort, Lyon restait sur 7 victoires à l'extérieur, c'était le record.
Alors Lyon, Habib, est-ce que c'est un problème finalement de rythme peut-être, de rythme à tenir? On se souvient qu'en début de saison, c'était un peu en dents de scie, après ça s'est stabilisé, mais c'était une équipe qui était, notamment en Ligue des Champions, on se souvient de leur performance. Est-ce qu'ils ont du mal à tenir le rythme parce que finalement, c'était une semaine difficile?
Oui, c'est une semaine difficile. Après, je trouve qu'il est un petit peu dur avec cette équipe parce qu'il y a quand même des faits de jeu. Le pénalty sur Malcolm est tout sauf un pénalty. Il y a l'erreur aussi d'Anthony Lopez. Et puis, il y a, je pense, un problème de mental parfois chez les Lyonnais lorsqu'ils sont bien et qui a des grosses performances comme face au Paris Saint-Germain, il y a une forme de pas de suffisance, mais de relâchement coupable, souvent dans la part des Lyonnais. Parce qu'hier, on est face à une équipe de Bordeaux qui est traumatisée, malgré tout, même s'il y a un changement d'entraîneur. Et que justement, ce type de match, on savait très très bien que les Bordelais allaient mettre de l'agressivité. Et on n'a pas retrouvé la qualité technique des Lyonnais. Parce que ce qu'il faut faire, c'est décourager cette équipe d'aller dans le pressing. Et c'est souvent ce que fait Paris. Tout le monde presse contre Paris. Il y a une telle qualité technique que vous épuisez en fait à presser parce que vous récupérez pas le ballon. Et hier, on a vu des Lyonnais qui, sur le plan technique, ont été pour moi insuffisants. Aouar est tout sauf une bonne idée sur le plan offensif côté gauche. Mariano Diaz, lorsqu'il est dans ces dispositions-là, ne sert à rien dans cette équipe, même si je le trouve très très bon encore une fois, mais on le perd dans le jeu, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le trouver. Et puis les faits de jeu qui sont importants dans ce match et qui pour moi ont une incidence sur les résultats.
Franck, est-ce qu'on peut se dire que justement après ces deux bons résultats qu'ils avaient eu durant la semaine, il y avait une certaine suffisance dans leur tête, peut-être pas d'une manière démonstrative sur le terrain, mais dans leur tête?
Je l'ai pensé en regardant les images, mais ça suffit pas à expliquer cette contre-performance. Je pense que les Girondins aussi ont sorti un match, en tout cas en première période, je les ai trouvés très très intéressants, très convaincants. Pas de fébrilité, alors que bon, eux, pour le coup, ils étaient vraiment le nez dans l'eau depuis un petit moment. Ils avaient besoin de ça. C'est le genre de match qui va leur servir à se relancer. Mm-hmm. Après, c'est vrai, il faut pas que s'exonérer dans les explications des faits de jeu. On a vu quand même des choses assez étonnantes de la part de l'arbitrage, mais bon, ça fait quelques temps en France.
Karine, Lyon, Lyon reste deuxième, mais finalement perd une belle opportunité. Eux, c'est pas deux points qu'ils ont perdu, c'est carrément trois.
Oui, c'est une belle opportunité, mais finalement aussi ce match nul entre Marseille et Monaco les a arrangés. Moi, j'ai trouvé que c'était un match sans de la part de tout. Les joueurs, en fait, c'est vraiment une journée sans. J'ai trouvé qu'il y avait aucun joueur qui sortait du lot. Parfois, évidemment, Lyon a perdu, mais il y avait toujours un Fekir, un Aouar, un Mariano Diaz qui sortait du lot. Là, j'ai trouvé que globalement, ils étaient tous en deçà. Après, ça peut aussi se comprendre parce que voilà, ils avaient vécu une semaine, comme ils l'ont dit, très importante. Tu tapes le PSG, tu réalises un exploit quand même quand tu tapes le PSG. Tu sors Monaco. Souvenez-vous que Monaco, sur les 20 dernières minutes, ils font une fin de match très intéressante. Mais finalement, Lyon tient et ils gagnent. Et c'est une qualification en Coupe de France après une victoire 3-2. Donc voilà, ils pensaient que le match face à Bordeaux allait être le plus simple de la semaine, sûrement. Et donc, il y a une décompression. Pour moi, c'est pas une faute professionnelle ou c'est pas de la suffisance. C'est compréhensible, quoi.
Il y avait peut-être les deux choses qui se sont télescopées. Effectivement, ce relâchement, parce qu'ils sortaient de deux gros matchs, comme disait Karine. Et puis, de l'autre côté, les Girondins qui avaient le couteau,
couteau
entre les dents. Et c'est venu se télescoper, voilà. Et c'est pas un hasard si Karine explique qu'ils ont tous plongé, en fait. Mmh. Voilà, c'est pas un, mais tout le monde.
Et justement, ces Girondins, on peut dire qu'ils les étreignaient, leur nouvel entraîneur. Lui, il avait des doutes au début du match. Et il a été un peu surpris par les résultats, Gustavo Poyet.
Tu sais, avant le match, comme tout le monde, tu penses comment ça va y aller. Tu penses, j'espère que ça va bien, qu'on peut gagner les trois points, que j'arrive à voir quelque chose de différent là. Mais la première mi-temps, il était plus de ce que j'espérais là. C'était vraiment bien.
L'Uruguayen qui parle déjà français, en tout cas, Karine, chance du débutant pour Gustavo Poyet.
En tout cas, de ce qu'on a vu hier, il n'y avait rien de révolutionnaire. On a vu des joueurs qui jouaient également avec Jocelyn Gourvenec. On voit Depréville qui marque, c'était quand même le choix de Gourvenec. Il avait marqué aussi la semaine d'avant contre les Nantais. Moi, j'ai rien contre Gustavo Poyet, je regrette juste les décisions de Bordeaux, parce que parfois, il faut savoir être fort. Si tu crois foncièrement ton entraîneur, si tu penses que ton entraîneur est le bon choix et que tu l'as choisi l'an dernier et que tu l'as prolongé à la fin de sa première saison, je comprends pas que t'abandonnes. Parce que dans tous les cas, je pense que Bordeaux n'était pas menacé réellement par la Ligue 2. Donc évidemment, la saison, elle allait être compliquée. Mais tu peux relever des moments très compliqués. On a la preuve avec Nice. Donc j'ai rien contre Gustavo Poyet, mais je regrette juste que Bordeaux ait cédé à la panique et aussi à certains supporters.
Eric ?
En tout cas, on peut imaginer que le départ de Gourvenec a fait du bien aux Girondins, puisque dans les fêtes, eh bien, depuis qu'il est parti, il y a eu deux victoires, une à Nantes et puis celle d'hier.
Oui, l'avenir nous dira. De toute façon, c'est l'histoire du football. C'est le vrai problème. C'est-à-dire que on est tous tristes pour Gourvenec parce qu'en 2007, c'était l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Il avait fait un parcours avec Bordeaux assez exceptionnel.
C'est pas non plus devenu le plus mauvais entraîneur de France.
Non, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, les décisions sont prises par les dirigeants parce que, comme le dit Karine, il y a de la pression des supporters. On n'est pas capable de tenir, justement, comme l'ont fait les Niçois avec le président Rivière qui s'est tenu à Lucien Favre. Et on voit qu'aujourd'hui, que Nice revient très très bien. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun choix de Gustavo Poyet en termes de joueurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours intéressant de récupérer un Laborde, par exemple, en pleine possession de ses moyens. Parce que même si c'est pas un immense attaquant ou un grand attaquant, c'est un attaquant qui est volontaire et qui fait un petit peu courir l'adversaire. Depréville, c'est lui juste une question de confiance, même si on sait, comme Valère Germain, qu'il marquera pas dans 20 buts dans une saison. Il faudra attendre pour Poyet, mais il faut lui donner sa chance et se dire que on s'était offusqué lorsque Ranieri avait été viré de Leicester, et Leicester avec Shakespeare était allé en quart de finale de Ligue des Champions, s'était sauvé en première ligue, et on s'était tous dit bon, en fin de compte, Leicester a fait le bon choix en virant Ranieri. Donc je crois qu'il faut lui donner sa chance à Poyet.
Donc Franck, c'est l'effet psychologique.
Ou alors, moi j'ai pas l'occasion de parler avec des joueurs des Girondins, mais
oui.
Parce que voilà,
personne ne voulait le départ de Gourvenec, de ce que j'ai pu comprendre.
Oui, ouais. C'est ce qu'on avait aussi cru entendre publiquement. Mais
avait un temps pensé à
s'en aller.
À s'en aller. Honnêtement, tous les joueurs étaient derrière lui. C'est pour ça en fait le départ de Willy Sagnol, il se comprenait. Il y avait une vraie fracture entre le vestiaire et l'entraîneur. Dans ce cas-là, tu peux pas continuer. Mais là, c'était pas le cas. Gourvenec, il était ciblé par les supporters et aussi parce que ses résultats étaient très mauvais. Ça y a rien à dire. Mais après, il avait quand même ses joueurs encore.
Mais victime de ses choix aussi, de mettre Toulalan en défense centrale. Ça l'a quand même explosé. On voit bien que Toulalan n'avait plus de niveau pour jouer en défense centrale, que c'est un milieu de terrain. Et ça, je pense qu'il s'est tenu à cette configuration-là et ça lui a fait du mal. Et il n'a pas voulu en fait mettre en, en porte-à-faux Toulalan, il ne l'a jamais sorti et on s'est rendu compte que malgré tout il aurait dû le faire au vu des performances de Toulalan.
C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la faiblesse quelque part des dirigeants du club de céder à ça. C'est pas toujours simple et on voit qu'il rebascule tout de suite sur une victoire du bon côté du championnat.
9e.
Voilà, comme quoi il y a peut-être pas urgence quoi.
En tout cas, ceux qui vont toujours bien, eh bien ce sont les Parisiens et leurs buteurs.
Ça c'est bien fait de la part de Thiago Silva.
Et le contrôle de Neymar ensuite, juste en dehors de la surface, qui attend l'arrivée de Rabiot. Rabiot en retrait.
Ah, c'est bien sauvé. Edinson Cavani entre dans l'histoire. Il devient le recordman de buts dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
Bonjour à tous, c'est un jour très spécial. Et les premières choses que je vous dis, c'est merci à tous vous, à mes coéquipiers, à toutes les personnes qui travaillent pour le Paris Saint-Germain, les kinés, les tontons, les tontons, tous. À vous, les supporters, pour donner à nous, toute l'équipe, la chaleur des supporters, que c'est très important pour nous. Et à cette club aussi, qui me donne la possibilité de rentrer avec vous dans l'histoire de cette équipe. Merci beaucoup encore une fois et allez Paris.
Fait pleurer le matador Franck Simon.
Moi j'aime bien, j'ai toujours été fan.
On va en parler justement.
Et d'avant PSG même.
Il a battu son record enfin et à domicile dans un Parc des Princes qu'il a donc ovationné en inscrivant le premier des 4 buts du PSG face à Montpellier. Jusque-là, alors meilleure défense de Ligue 1. Alors la meilleure défense en a pris 4 au Parc. Et le si discret Cavani a donc fait un peu de Cristiano Ronaldo. Non, vous n'avez pas trouvé, Franck. Ouais. J'enlève mon maillot, je montre mes muscles et je
le fais pas
salue
souvent, c'est
les
rare.
Supporters. Bah oui, non mais il avait une bonne raison là. Ouais. En tout cas, Dominique Sévrac écrit dans Le Parisien aujourd'hui, Cavani, on ne peut que l'aimer. Alors il dit aussi, Dominique Sévrac, un attaquant peut-être le plus complet de l'histoire du club, le plus moderne, mais qui provoque moins d'émotions. Est-ce que c'est ça la définition de Cavani pour vous, Franck ?
Je saurais pas. Ça, c'est Dominique qui l'écrit.
Oui, c'est Dominique.
Bon, il l'écrit bien.
Dans son
éditorial. Après tout, à chacun sa définition. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un gars qui se bat sur le terrain. On retient le record aujourd'hui. Moi, je retiens tous les efforts qu'il fait en dehors de ça quand il a pas forcément le ballon. Je retiens aussi son côté altruiste, son apport défensif où il a beaucoup sacrifié. Il s'est beaucoup sacrifié. Et puis, moi, sa personnalité globalement, je le connais pas, mais j'aime. Ce qu'il exprime sur le terrain, malgré tous ses ratés, parce que il en a quand même raté beaucoup, mais visiblement il en a marqué aussi beaucoup.
Aviv, je sais que vous le défendez toujours, mais meilleur buteur de l'histoire du club, est-ce que ça veut dire que c'est le joueur le plus marquant ?
Pas forcément, non, pas forcément.
C'est différent.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas s'arrêter à des statistiques. Il y a des joueurs qui ont marqué leur temps sans forcément exploser les statistiques. Je crois que Cavani est un homme solitaire, ça tout le monde le sait. Il a été adopté par le Parc, parce qu'il faut pas oublier que par moment il a été sifflé. Moi, ce que j'admire chez cet homme-là, c'est qu'il a été critiqué, il a été même traîné dans la boue parfois par les observateurs du football. On voyait en lui qu'un second couteau, le lieutenant de Zlatan et au service de l'équipe,
le maladroit.
On était très très peu à voir en lui un attaquant exceptionnel, parce que c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et lorsqu'on voit qu'il explose le record en ayant joué 3 ans sur le côté gauche, imaginez-vous si on avait confié à Cavani la pointe de l'attaque, je pense que les stats seraient encore plus importantes et elles vont continuer à monter, parce que c'est quelqu'un qui est né pour ça, qui se bat pour ça, et j'adore l'homme. Parce que lorsqu'on voit les polémiques qu'il y a pu avoir entre lui et Neymar, et qu'on voit Neymar prendre ce penalty et qu'il est sifflé, on voit Cavani l'applaudir, aller lui taper dans la main, là où beaucoup de joueurs ont fait preuve d'arrogance
et de
mépris. Après, je pense que de la part de Neymar, c'est beaucoup moins honnête que peut le faire Cavani. Je crois que Neymar, tout est dans la communication, tout est dans le paraître. Comme il voit qu'il est tensé par le Parc et comme il voit qu'il est tensé par les médias et qu'aujourd'hui il peut être le désaimé un petit peu entre lui et Cavani, parce que c'est ce qui s'est passé au Parc
des Princes.
Du coup,
il est allé devant les médias pour
il est allé devant les médias, qui est assez rare de la part de Neymar, qui a tressé les éloges, vous le disiez. Je pense que c'est un quelqu'un qui a une arrogance et un ego surdimensionné, mais comme toutes les stars du football, je pense que Cavani n'a pas ça. Cavani est aujourd'hui au service du football, au service du collectif, et c'est ce qui fait sa grandeur.
Eric, le total c'est 157
buts. Donc il dépasse désormais Zlatan Ibrahimovic, qui en était à 156 buts. Au ratio, Zlatan est devant, 0,86 buts par match contre 0,69 pour être précis, à Cavani. Alors, on peut voir le profil d'attaquant qu'est Edinson Cavani dans les stades plus précises. Il marque 146 de ses 157 buts dans la surface de réparation. Seulement 11 de l'extérieur. C'est vraiment le renard de surface.
Ouais, c'est un Lewandowski, c'est un joueur qui est né pour ça. On se rappelle des Inzaghi aussi qui étaient dans ces configurations-là, même s'il marquait beaucoup moins, on était dans une autre époque. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur hors norme, mais qui sera remis en question quoi qu'il arrive. C'est ce qui est dur avec Edinson Cavani, parce que je peux vous le dire ici, et on est tous d'accord que si contre le Real, par exemple, Cavani venait à rater une occasion et que le PSG se ferait sortir de la Ligue des Champions, on aurait un débat pour dire Cavani a mis 157 buts, mais c'est un joueur qui n'est pas capable de faire passer le PSG sur un autre
palier. On le disait pour Zlatan.
C'est l'ingratitude de France de la Ligue des Champions.
Je trouve que là où est la différence, c'est qu'effectivement, on le disait pour Zlatan, et c'est quand même une réalité, mais je pense qu'aujourd'hui, la pression, elle est quand même beaucoup plus forte sur les épaules de Neymar, et c'est normal, il a voulu cette pression, il a voulu cette stature. Ce qu'on attend au Camp Nou, à Bernabeu, pardon, et après au Parc des Princes, c'est que Neymar emmène tous ses coéquipiers. On n'attend pas forcément que ça soit Cavani. Cavani sera essentiel aussi, mais c'est Neymar qui a tout approuvé. Il est venu au PSG pour devenir le meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or. Il veut que ça soit le PSG de Neymar. Le PSG a fait une com là.
Après
Neymar,
le PSG de Paris,
ça peut servir etc. les intérêts voilà. du PSG et de Cavani justement.
Voilà. Peut-être s'il attire c'est Neymar cette parce que pression. Neymar en plus, au match à l'Allianz Arena au Bayern Munich, il n'a pas été bon par exemple. Là, tu l'attends, et lui aussi même. Évidemment, il a coché ces deux rendez-vous. Donc je trouve que c'est Neymar avant tout qui pourrait être critiqué et jugé plutôt que Cavani.
Il sera jugé de la même façon.
Ouais, mais regarde le travail qu'il a fait.
C'est l'histoire de sa vie depuis qu'il est à Paris. Je crois que il est atypique, il est différent des autres. C'est vraiment que
aujourd'hui. Ah oui, lui il préfère les week-ends dans l'Aveyron que.
Mais oui, mais parce que
à Dubaï.
Parce que je vais pas dire que c'est un anti-star, mais c'est un anti-glamour Cavani. Il est là pour aujourd'hui faire son métier.
Il correspond bien à certaines, en plus certaines personnalités uruguayennes.
Ouais, exactement. Il y avait un très beau papier d'ailleurs de Laurent Blanc sur Edinson Cavani. Il faudrait le lire dans l'équipe parce qu'il a loué les qualités d'Edinson Cavani, il a dit qu'il l'avait repéré avant, il était humaniste et que c'était quelqu'un qui acceptait à chaque fois son sort et qui travaillait pour l'équipe. Et ça, c'est à montrer à tous les jeunes footballeurs aujourd'hui, type Kylian Mbappé par exemple.
Mais même là, quand il fait ses remerciements, il remercie tout le staff, les kinés, etc. C'est pas calculé, c'est parce qu'il sait qu'il a besoin de tous ces gens pour être bon et tous ces gens sont importants pour lui. C'est quand même très rare un buteur né comme lui autant altruiste. Normalement, ils sont quand même égoïstes, c'est dans leur jeu et c'est dans son staff, leur façon d'être. Lui, c'est l'opposé.
Alors, l'opposé de Cavani, c'est donc Neymar. Neymar qui s'est arrêté près de la presse, même s'il n'est pas allé voir les supporters. Et il a surtout évoqué cette presse, notamment espagnole, qu'il envoie chaque jour plus vers le Real.
Tout va bien. Je suis heureux ici, avec mes partenaires. Je crois que j'ai de bonnes statistiques. C'est pour ça que je suis venu ici, pour écrire l'histoire, repousser mes limites. Vous savez, les spéculations existeront toujours. Les rumeurs existent depuis Santos. Il y en a eu aussi au Barça. Lors de tous les mercatos, mon nom sort. Je ne peux pas y échapper. Alors j'en suis heureux, ça veut dire que je suis bien, que je joue bien. Car il y a des rumeurs sur tous les bons joueurs. Il n'y a pas que moi dans cette situation dans le monde du football. Mais en ce moment, on ne parle que de moi.
Karine, l'équipe, ça fait partie justement de ces gens qui estiment que Neymar n'est pas heureux en Ligue 1, n'est pas heureux au Paris Saint-Germain, qu'il aura envie de partir aussi vite que possible. Qu'en pensez-vous ?
Mais moi, ça me paraît absolument impossible. En fait, je comprends pas qu'on fasse autant de débats sur Neymar est pas heureux à Paris.
Ça fait vendre, vous répondrez.
Le Real Madrid de Neymar, de toute façon, c'est impossible. Si il y a bien un endroit où le PSG est plus fort que ses joueurs, c'est par rapport au contrat. Et on l'a vu par le passé. Quand Verratti a voulu partir, à chaque fois il est resté. Alors il y a eu revalorisation salariale, il faut pas être des pigeons. Mais le PSG n'a pas lâché les joueurs qu'il voulait garder. Et c'est évident qu'une fois que t'as attiré la perle rare, celui que t'as mis tant d'années à faire venir, parce qu'ils avaient déjà essayé par le passé, celui qui est considéré comme le troisième meilleur joueur du monde, tu vas pas le lâcher au bout d'un an ou de deux ans. C'est impossible par rapport à ce que le PSG a construit, c'est pas possible. Ça serait un énorme camouflet. C'est pas du tout envisageable à mes yeux.
Franck.
Comme par hasard, ça vient quand même de notre voisin espagnol. Hein. Y a pas de...
Ils n'aiment pas le PSG, paraît-il.
Non, mais c'est peut-être qu'il y a, y a une double confrontation importante dans quelques jours. Donc voilà, ils essayent de remuer un peu comme ça.
Déstabiliser un peu.
Déstabiliser, ça, ouais. Ça fait partie, c'est un des procédés qu'on utilise.
Mais c'est tout à... En même temps, c'est tout à fait logique que le Real veuille Neymar. Moi, ça ne m'offusque pas. Oui. Concrètement, tu es l'un des plus grands clubs du monde, tu as Neymar qui est au PSG. Bah, moi, si demain je suis le Real et que j'ai l'argent et que j'ai envie d'avoir Neymar, je vais le dire.
Une élimination du PSG pour échanger la donne à Lille.
Je sais pas, mais de toute façon, c'est vrai qu'ils ont la puissance sur les contrats. Mais lorsque vous avez un joueur qui veut plus rester dans un club, ça devient compliqué dans la gestion de cet élément, surtout si c'est Neymar.
Même quand il veut rester d'ailleurs, non ?
Où je suis moins en accord avec Neymar, c'est quand il vient et qu'il arrive tout sourire avec sa casquette et qu'il dit je suis heureux au Paris Saint-Germain, mais que 4 jours avant t'es sorti avec ton ballon, que t'as mis un quadruplé et t'étais mécontent parce qu'on t'a sifflé, c'est tout à fait logique. Que 3 jours après tu viens pas au match. Que tes copains jouent parce que tu estimes que bon bah c'est pas très important de venir voir jouer.
Il avait mal à la cuisse.
Oui bon ouais on est d'accord mais ce que je veux dire c'est que il y a quand même un langage du corps qui ne trompe pas et Neymar sur les on va dire les deux dernières semaines n'est pas non plus le joueur le plus épanoui quand il est sur le terrain n'est pas non plus le joueur le plus épanoui en dehors dans ce qu'on le voit faire donc il a le droit d'avoir des états d'âme il a le droit de pas être content on a tous été maintenant il faut pas non plus rentrer dans une fausse communication d'aller créer sous tous les toits dès qu'il y a un petit peu le feu non je vais bien. Je suis très heureux, j'adore Cavani, lui c'est mon meilleur ami. À un moment donné, il n'y a pas de mal à dire, écoutez, on n'est pas les meilleurs amis du monde, on joue ensemble, laissez-nous travailler. Maintenant, d'aller dire qu'il est amoureux de Cavani, qu'il est très content.
Non, mais il
n'est
même
Cavani,
pas crédible, tu l'as expliqué, voilà, il n'est pas crédible.
C'est juste un manque de crédibilité, mais en même temps, c'est de la com. Elle existe en football, on le sait, on n'est pas dupe. On sait très très bien qui est Neymar, on sait ce qu'il veut, et il a raison de le vouloir parce que c'est un très grand joueur. Et moi, j'ai aucun problème avec ça.
Eh bien voilà, sur le cas Neymar, donc en tout cas ce Paris Saint-Germain, toujours premier du championnat de France. Direction Le Châne avec cette dernière semaine de compétition à l'issue des quarts de finale qui se sont donc disputés au cours du week-end. Les affiches des demi-finales, Franck, c'est donc Maroc-Libye et Soudan-Nigeria. Ça se disputera mercredi, les deux demi-finales. Avant d'évoquer les favoris qui sont toujours là, peut-être un mot sur le Congo parce qu'ils ont joué le dernier quart de finale hier, un match interminable. Hein, on va jusqu'au bout non seulement du temps réglementaire mais des prolongations. Et finalement, ce sont les tirs au but qui les ont départagés, alors en défaveur des Diables Rouges.
Oui.
En faveur des Libyens.
Et en faveur des Libyens, oui. Voilà, une grosse prestation, de toute façon, globalement, de ce Congo, Brazzaville, dans le tournoi. C'est dommage que ça soit tombé sur son gardien, Barrel Mouko, qu'on connaît bien en France, hein, qui a joué à Dijon,
qui n'a pas réussi à marquer son pénalty.
Qui a tiré au-dessus du cadre. Mais la performance du Congo est vraiment encourageante. Il y a plein de jeunes joueurs qui étaient déjà là du temps de Claude Leroy qu'on va continuer à retrouver en équipe A. Voilà, ce qu'ils ont fait, c'est bien, contrairement à d'autres nations francophones ou d'Afrique de l'Ouest qui ont raté.
Surtout, ça va leur servir. C'est en tout cas ce qu'affirme l'entraîneur de l'équipe, Barthélémy Ngatsono.
Lors de notre première participation, on était sorti juste au premier tour. Maintenant, on a essayé un peu de pousser. On avait ce souci-là d'aller un peu plus loin, mais dommage. On va repartir sur nos erreurs que nous avons constatées, tant sur le plan organisationnel et tout, n'est-ce pas? Après, prétendre la prochaine édition, j'espère qu'elle sera meilleure. Donc, déçu, oui, parce qu'on n'a pas pu, alors qu'on avait la possibilité, n'est-ce pas, d'essayer un peu de pousser loin notre pion, mais c'est dommage. Mais on se remet en cause dans le travail, puis dans la préparation de la prochaine échéance.
Voilà, donc un moment finalement important de former une équipe hein, locale, comme on le dit ici, et qui va défier les autres sélections dans ce championnat.
Oui, absolument. Bon, franchement, on va les retrouver très très vite. On espère voir Junior Makiessé, qui était un des héros de ce tournoi, ailleurs, peut-être en Europe. Il y a vraiment de l'espoir autour de ce Congo-là. N'oublions pas qu'ils avaient éliminé le tenant du titre, la RD Congo, lors des phases précédentes.
Alors les autres matchs, il y a eu donc un 2-0 du Maroc contre la Namibie, 1-0 Soudan-Zambie et puis le 2-0 entre le Nigeria et l'Angola. Ce qu'on voit, c'est que les Lions de l'Atlas, qui depuis le début de la compétition sont favoris pour jouer à domicile et pour en vouloir beaucoup sur cette compétition, ils sont toujours là.
Ils sont toujours là, même s'ils n'ont... Franchement, ils ont... ça a été service, un service minimum, ce match de samedi contre l'équipe de Namibie, avec beaucoup de critiques sur l'arbitrage du Malien Keïta, des critiques plutôt...
Il n'y avait pas d'assistance vidéo
Non.
Pourtant, elle avait été promise à partir des quarts de finale.
Oui, ça a été changé. Voilà. Mais logiquement, ils sont favoris, ils ont marqué beaucoup de buts, ils ont une belle équipe. Le meilleur buteur est El Kaabi, qui vient de la Renaissance de Berkane et qu'on pourrait imaginer retrouver en Coupe du Monde avec le Maroc. Donc il y a tout un tas de réseaux de pensée qui peuvent y aller, sauf que il y a des équipes en face qui ont les crocs aussi, hein, le Soudan qui a fini derrière dans le même groupe, le Nigeria et la Libye.
La Libye qui s'était qualifiée in extremis
pour
les voilà
temps additionnel
94e minute 1-0, ils sont passés grâce à cette victoire et qui avait gagné l'épreuve en 2014. Étonnante équipe libyenne quoi hein, qui
étonnante mais
au niveau local
Ali Tripoli qui était phase en quart de finale en phase de poule plutôt de la Ligue des Champions la saison dernière qui forme l'ossature de cette équipe nationale. C'est une équipe qui était se préparer au Kenya puis ensuite qui a fait des matchs dans le nord de l'Afrique et ils ne sont pas chez eux, ils sont pas à Tripoli ou à Benghazi pour des raisons qu'on imagine aisément, mais ils travaillent très bien et puis
même l'équipe A a eu de bons résultats sur
c'est quasiment la même équipe en fait à Liban deux jours après hein. Ahmed Ben Ali qui est actuellement à Crotone et un autre qui est au Portugal et tu as l'équipe A de Libye, c'est une équipe très solide,
c'est un beau football en
plus. C'est un beau football. Ouais. Vraiment, ils ferment jamais le jeu. Bon, c'est vrai qu'ils ont ce petit coup de pouce du destin contre le Rwanda, parce que le Rwanda joue pas forcément bien les dernières minutes, mais une très belle équipe. Et puis, pour finir sur ce match, sur ce groupe Maroc-Soudan, on avait nos amis mauritaniens, Annie qui était là-bas. Ça prouve bien, et je dis ça en m'adressant à tous les amis mauritaniens, voilà, faut pas en vouloir à Semour Abitoun, c'était très compliqué. La preuve, Maroc et Soudan sont dans le dernier carré.
Voilà, le groupe était très relevé.
C'était très relevé, donc voilà, faut pas leur en vouloir.
Et justement, parlant de groupe très relevé, on avait noté que les équipes d'une certaine partie de l'Afrique, qui est l'Afrique australe, réunies dans la COSAFA, Angola, Namibie et Zambie, alors qui ne sont plus en demi-finale, mais en tout cas, ont tous passé le premier tour allègrement, grâce à leur championnat finalement là-bas, mieux organisé.
Grâce à leur championnat ou pas de championnat, parce que la Namibie, par exemple, ils avaient des soucis.
Ça faisait quelques temps.
Voilà, ça faisait quelques temps, mais c'est effectivement une région, l'Afrique australe, où il se passe aussi des choses, ils travaillent beaucoup, et eux, pour le coup, l'entraîneur de la Namibie le disait après le match contre le Maroc, de grâce, président Ahmad, surtout, n'en terminez pas avec le Chan, parce que nous, on a besoin de ce type de compétition pour notre football. Les Namibiens, ils ont pas de joueurs à l'étranger. C'est la même chose quasiment pour d'autres petites nations qui étaient pas présentes, le Botswana, par exemple. Angola, vous en avez au Portugal, forcément. La Zambie, vous en avez en Afrique australe. En Afrique du Sud, vous en avez un petit peu en Europe, comme Patson Daka, qui est Red Bull Salzbourg. Mais ils ont besoin de ce chan et c'est aussi toute l'utilité d'une compétition comme celle-là.
On suivra sur RFI, évidemment, la fin de cette compétition qui se terminera dimanche prochain. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Radio Foot. Merci Karine, Habib et Franck. Merci aussi à Eric. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Guillaume Ploquin. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. On se dit à demain.